et puis que vous me fixiez la conduite. En me proposant donc cela, est-ce que j'aurais usé de légèreté ou les choses que je me propose ne les propagent en sorte qu'il y ait en moi le oui, oui et le non, non. Mais Dieu est fidèle, que notre parole que nous vous avons adressée n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, savoir par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais il y a oui en lui. Car autant il y a de promesses de Dieu, en lui est le oui, et en lui l'amen à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, qui aussi nous a scellés et nous a donné les arts de l'Esprit dans nos cœurs. Or moi j'appelle Dieu à témoin sur mon âme, que ça a été pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous coopérons à votre joie, car c'est par la foi que vous êtes debout. Mais j'ai jugé ceci en moi-même, de ne pas retourner auprès de vous avec de la tristesse. Car si moi je vous attriste, qui est-ce donc qui me réjouit, sinon celui qui est attristé par moi? Et j'ai écrit ceci même, afin que quand j'arriverai, je n'ai pas de tristesse de la part de ceux de qui je devais me réjouir, ayant cette confiance à l'égard de vous tous, que ma joie est celle de vous tous. Car je vous ai écrit dans une grande affliction, et avec serrement de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour que j'ai si abondamment pour vous. Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais en quelque sorte, afin que je ne vous surcharge pas, c'est vous tous. Il suffit pour un tel homme de cette punition qui lui a été infligée par le grand nombre, de sorte qu'au contraire, vous devriez plutôt pardonner et consoler, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à ratifier envers lui votre amour, car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin que je connaisse à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne, car moi aussi ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous, dans la personne de Christ, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'oublierons pas ses desseins. Or, étant arrivé dans la proie pour l'évangile du Christ, et une porte m'y étant ouverte dans le Seigneur, je n'ai point de repos dans mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. Mais ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Or, grâce à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ, et manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu, tant comme la bonne odeur de Christ pour Dieu, à l'égard de ceux qui sont sauvés, et à l'égard de ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort pour la mort, et aux autres une odeur de vie pour la vie. Et c'est suffisant pour ces choses, car nous ne sommes pas comme plusieurs qui frôlent la parole de Dieu, mais comme avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant vous, nous parlons en Christ.
Nous avions, l'année dernière, considéré, en effet, la première partie de ce projet. Bénissons le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miracles.
Et c'est donc le cœur de l'apôtre, c'était que le nom de Dieu soit glorifié.
C'est que les Corinthiens fussent ramenés et maintenus dans le chemin propre à glorifier Dieu, mais cela ne pouvait être que si l'amour était magnifié, ratifié, comme il est dit envers celui dont, à l'égard duquel il fallait maintenant faire preuve précisément de grâce, une fois que le travail de la conscience avait été opéré, mais dans le désir, que les cœurs s'élargissent dans l'amour,
unis à la vérité, dans la crainte du Seigneur.
Il est merveilleux de suivre là les exercices de cet apôtre, les exercices de cœur, et de voir comment il est à l'égard de ceux dont il a à s'occuper, mu, conduit, n'est-ce pas, par un amour qui est inséparable de la vérité.
Chacun
sait que cette seconde épître a été...
Ce premier chapitre de cet épître,
qui traite spécialement du ministère, ce sont les chapitres qui parlent essentiellement du ministère. Ensuite, on a les chapitres 8 et 9, qui parlent de ce coupé si important, du fait de donner et de recevoir, quant aux besoins des saints, l'amour en exercice. On voit là, Paul,
Je n'aurais jamais pu faire une promesse aux hommes.
Ainsi, il y avait eu devant lui, dans son propos, dans sa pensée, dans ses conseils, Christ. Il n'y a pas eu une réponse à la foi en des promesses, autrement que sur la base de Christ et de l'œuvre de Christ. Sans cela, c'est aussi ce qui nous permet, dans des jours.
Le verset 20
nous présente donc
chanté. Que répond l'Église avec l'Esprit? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Expression à la fois de l'attente, du besoin que cela soit réalisé, et de la conviction, de l'assurance donnée par Dieu à la foi, et que la foi exprime qu'il en sera bien ainsi. Amen. Viens, Seigneur Jésus.
Un autre exemple que l'on peut donner est celui-ci. Dans l'église à Laodicée, le Seigneur se présente comme, dans le passage connu de tout le monde, n'est-ce pas?
Amen.
Laodicée se représente le dernier état de l'église en décadence et en ruine. Hein. Eh bien, le Seigneur dit, se présente comme... Voici, j'amène le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, c'est-à-dire celui qui était à l'origine dans la création, il était là. Et cela met en évidence que l'Église n'a pas su être la mienne quant aux promesses, aux privilèges qui lui avaient été accordés. Elle ne l'a pas fait. Et au fond, nous pouvons dire, personne n'a su mettre la mienne. N'a su réaliser la messe selon la pensée de Dieu. Parmi tous ceux qui ont eu reçu des grâces de la part de Dieu, personne n'a su agir en rapport avec la grâce accordée et mettre en évidence l'intention de Dieu dans la grâce accordée. L'Église avait pour mission dans ce monde de montrer qu'elle était plus forte que le monde, plus forte que le mal qui est dans le monde, plus forte que Satan, le maître du monde. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas mis l'amen au conseil de Dieu à cet égard. Eh bien, en dépit de toutes ces infidélités qui ont marqué l'histoire de l'humanité d'un bout à l'autre, Dieu se réserve le moment où on verra que l'amen à tous ses conseils, à toutes ses promesses, sera parfaitement accompli, réalisé. Et cela, nous y revenons toujours, grâce à Christ, à son œuvre de la croix et à sa personne, à ce qu'il est. Dieu, le monde va, on pense qu'il va à la dérive, mais pas du tout. Dieu reste le maître souverain depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Et si bien des choses surprenantes se passe dans ce pauvre monde, ne pensons pas que Dieu perde cela de vue, ni qu'il ne sache pas comment y faire face. Il a son plan. Et le moment viendra où il manifestera ce plan et il mettra en évidence que, quelle qu'ait été la puissance de Satan et la méchanceté des hommes, et il montrera qu'il a réalisé l'intention, qu'il a réalisé ses conseils, et que cela sera pleinement manifesté à sa gloire, à la gloire de Dieu, à la gloire de Christ, et pour le bien des saints de tous les temps. Dieu n'est pas dépassé, il n'est pas dépassé par les circonstances, et il n'est pas incertain. Il n'a pas à se corriger. Il ne corrige d'ailleurs jamais ce que l'homme a gâté, on l'a souvent dit. Il a un plan, et il est au-dessus de tout ce que, de tout ce qu'on, qui peut s'élever contre lui. Cela met très haut la venue ici-bas de Christ et la mort de Christ et sa résurrection.
Le but final étant la gloire de Dieu, à la gloire de Dieu par nous. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu sera dans l'état éternel, assurément. Mais jusque-là, bien des accomplissements partiels et de plus en plus glorieux, pouvons-nous dire, à mesure que se déploieront, se manifesteront les résultats de l'œuvre de Christ. Quand Christ sera manifesté, quand il quittera le sein de la gloire où il est caché et où il sera manifesté, où il apparaîtra en gloire, eh bien, tout sera à la gloire de Dieu. Et par nous. Par nous. Dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons cela d'une manière presque constante dans les premiers chapitres, et surtout dans le premier chapitre, quand il nous est dit, premier chapitre au verset 6, que Dieu nous a prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Plus loin, quand il est parlé de celui qui opère, au verset 11, de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ. Cela sera manifesté à la gloire de Dieu. Et puis, quand il est parlé au verset 14, de la rédemption, de la possession acquise, c'est-à-dire quand la pleine rédemption des rachetés s'opérera avec la transformation de leur corps à l'image, à la ressemblance du corps de gloire de Christ, eh bien, ce sera à la louange de sa gloire, la louange de la gloire de Dieu. Et puis le passage bien connu du chapitre 2 de la même épître, mais il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. Et bien d'autres passages encore nous montreraient ainsi la gloire de Dieu par nous, c'est-à-dire à cause de nous, dans ce qu'il a fait à notre égard et dans ce qu'il manifestera à l'égard de ceux qui étaient des pécheurs perdus et dont il fait ses enfants, des rachetés et des sauvés pour l'éternité. Et quelle gloire pour lui, la gloire de Dieu par nous. Et alors, dès maintenant, alors qu'ils sont encore sur la terre, ceux en qui la gloire de Dieu sera manifestée d'une manière parfaite dans l'avenir, eh bien déjà, ils sont liés fermement en un faisceau, n'est-ce pas, et d'une manière sûre, ferme, à Christ. Il y a quatre choses qui sont présentées ici, n'est-ce pas, en rapport avec ce que Dieu a fait, ou ce qui ne pouvait être fait que par Dieu et non point par l'homme. Nous ne sommes pas liés les uns aux autres comme chrétiens, par une volonté commune, par des pensées que nous avons acceptées les uns des autres, ou des compromis, car généralement, lorsque il y a union terrestre, elle est faite de compromis. Et non, c'est Dieu qui nous a liés fermement, l'apôtre ici, avec ceux auxquels il écrivait, et les frères auxquels il avait affaire, tous étaient liés fermement à Christ. Et de même, le caractère mis sur nous, qu'il s'agisse de l'onction, c'est la deuxième chose qui nous soit présentée, liée fermement et qui aussi nous a oint. Et puis, la troisième qui nous a scellés, qui aussi nous a scellés. Et la quatrième qui nous a donné les arts. Et tout cela est marqué du caractère divin et tout se trouve centré, on peut dire, autour de Christ seul.
Pendant de longs millénaires, Dieu aura été déshonoré par sa créature. On ne peut pas dire que sa créature l'ait beaucoup honoré. Depuis la chute. Et Satan avait toutes les apparences du vainqueur. Celui qui avait détourné la créature de Dieu pour faire de cette créature quelque chose qui déshonorait le nom de l'Éternel, le nom de Dieu. Eh bien, le moment vient où Dieu sera glorifié par sa créature et glorifié comme il n'eût jamais été dans une condition d'innocence maintenue. Il sera glorifié par sa créature rachetée, amenée à lui, dans le ciel. Et grâce alors, évidemment, toujours à l'œuvre de l'expiation, qui est toujours le centre de tous les conseils de Dieu, de toute éternité. Dieu est glorifié en recevant un brigand. Le Seigneur est entré dans le ciel avec le brigand. Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Dieu était glorifié par l'entrée du brigand, pas dans la gloire encore, bien sûr, mais il était glorifié parce que l'œuvre de Christ était là. Et quelqu'un qui avait donc déshonoré Dieu d'une façon particulière est maintenant dans une place où il l'honore. Ah, cette question du péché entré dans le monde, elle est à la racine de tout. Et seule l'œuvre de Christ y répond, et d'une manière merveilleuse. C'est toujours cela que nous devons revenir.
Mais nous avons un, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ. Il nous a un. C'est Dieu qui un. C'est Dieu qui nous a un. Et l'apôtre ne parle pas là seulement de lui-même et de ses compagnons de service, mais de tous. Il vient de dire, il nous lie fortement avec vous, Christ, c'est un tout, et chacun dans ce tout, à part à ce qui est présenté là, en savoir oint, scellé, et a reçu les arts de l'esprit dans nos cœurs, chacun des croyants s'appuyant sur l'œuvre accomplie de Christ et assurée de la rémission de leurs péchés en vertu de l'œuvre accomplie. La première chose, c'est l'onction. L'onction, dans l'Ancien Testament, était faite par l'huile versée sur la tête, essentiellement, de ceux qui étaient oints. celui qui devait être loin par excellence, c'est Christ, dont le nom même signifie « oint », n'est-ce pas, et qui a été oint du Saint-Esprit lorsque il est venu auprès de Jean pour être baptisé du baptême d'eau. Et l'Esprit Saint est descendu du ciel, l'huile et la figure du Saint-Esprit. De sorte que la première acception de l'onction, du terme oint, c'est bien la mise à part pour un service, pour un office déterminé. Dans l'Ancien Testament, on voit comme oint essentiellement le sacrificateur. Ce sont des questions dont nous avons eu à nous occuper ensemble ici dans les réunions relatives à l'Épître aux Hébreux. Le sacrificateur, au jour de sa consécration, et on trouve les rois, oint d'une huile particulière, on trouve des prophètes qui sont oint, et Christ a été tout cela. Christ était tout cela. Il sera sacrificateur pour l'éternité, il est le roi et il est le grand prophète. Ici, nous à oint, il n'y a pas de séparation, je le répète, entre les fidèles. On pourrait dire, mais les apôtres sont à part. Bien sûr, les apôtres ont été à part quant à leur ministère. Mais d'abord, l'apôtre ici écrit en même temps que Timothée, le frère, qui n'est pas qualifié comme apôtre, proprement parlé. Et il n'y a pas d'onction spéciale dans le Nouveau Testament sur des hommes particuliers pour un service particulier. Le Seigneur donne, le Saint-Esprit qualifie, Dieu donne des dons. Le Seigneur donne des dons à l'Assemblée, il y a des ministères particuliers, mais il n'y a pas d'onction spéciale. Il est bon peut-être de le dire, parce que dans une très grande partie de la chrétienté, il y a des consécrations de prêtres, de sacrificateurs particuliers. Ici, nous sommes tous les croyants, liés de la même manière à Christ, sont des sacrificateurs, comme à notre point de vue, ils sont des rois, il nous a fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Et alors, comme tels, ils ont aussi, et on pourrait dire que par là, ils continuent les prophètes, et ils ont une sainte connaissance des choses. C'est l'autre aspect de l'onction, du fait d'être oint dans le Nouveau Testament. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et nous savons que cela s'applique aux petits-enfants eux-mêmes, non pas ceux qui ont atteint un très grand développement dans la vie chrétienne, et ceux qui sont au début, mais qui ont la connaissance et qui surpassent toutes les autres, c'est-à-dire le Père. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous connaissez le Père. Alors, à ses petits-enfants, l'apôtre écrit dans ce même chapitre, au verset 26, au verset 20 d'abord, il les met en garde contre les antichrists qui sont sortis, mais ils sont sortis du milieu de nous, des apôtres, mais ils n'étaient pas des nôtres, ils n'étaient pas des apôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils fussent demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils fussent manifestés comme n'étant aucun d'eux des nôtres. Eh bien, vous, petits-enfants, vous pouvez les reconnaître. Vous avez la connaissance suffisante pour les reconnaître. Verset 20, et vous avez l'onction de la part du Saint. celui qui nous a oint, c'est Dieu. Et vous connaissez toutes choses. Et puis, au verset 26, je vous ai écrit ces choses touchant ceux qui vous égarent. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne à l'égard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. Voilà donc ceux qui sont oints, qui ont une connaissance qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Une connaissance spirituelle, propre à discerner les esprits et à garder l'esprit simple, attaché à la parole, et à la parole qui présente Christ, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous voilà bien dans l'enseignement de l'apôtre Jean, n'est-ce pas? C'est à la fois très grand et c'est à la portée de tous, mais moyennant que nous laissions le Saint-Esprit nous enseigner, nous guider, nous éclairer.
Enfin, entre le baptême et l'onction, c'est-à-dire le baptême de l'Esprit et l'onction.
Il ne semble pas qu'il y en ait une fondamentalement, en ce sens que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour être sur la terre, et il n'est pas remonté, et il est resté sur la terre, c'est toujours le même Saint-Esprit, et qu'il est tombé sur les apôtres, c'est l'ensemble des croyants qui s'est trouvé là, dès ce moment, baptisé du Saint-Esprit pour être un seul corps, et cela correspond à l'onction dont il est parlé ici, à n'en pas douter. N'est-ce pas?
Dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, nous avons l'onction d'Aaron et de ses fils. Toute la famille sacerdotale a reçu cette onction. Et puis ils ont été sanctifiés pour accomplir leur service. Mais nous trouvons d'autres onctions. Par exemple, Saül a été oint d'une fiole d'huile. Tandis que David a reçu l'onction sous la forme d'une corne d'huile qui parle de la puissance. Et il est évident que tout service doit recevoir cette onction pour qu'il soit profitable. Ainsi, aujourd'hui, quoique ce ne soit pas quelque chose de particulier, un serviteur de Dieu doit être revêtu de cette onction qui est nécessaire pour qu'il accomplisse d'une manière digne du Seigneur son service au milieu des autres. Ainsi, toute la famille d'Aaron devait recevoir cette onction et puis être consacrée pour accomplir le service qui leur était échu.
Il y a le sceau. Le sceau est plutôt marque la possession. C'est le Saint-Esprit qui... C'est par le Saint-Esprit que tout cela est effectué. Dans l'onction, il y a davantage la pensée d'une action de l'Esprit, comme on vient de le dire tout à l'heure. Dans le sceau, le fait qu'un être, un homme, est marqué comme... C'est ça. Caractère, il est marqué comme appartenant à Dieu, au Seigneur. Mais ce Saint-Esprit n'est pas donné pour ne rien faire. Il n'est pas seulement pour marquer les saints. Il est donné pour agir en eux. leur révéler la pensée de Dieu. L'onction, c'est plutôt le Saint-Esprit vu dans son activité dans les saints et par eux. Mais c'est le même esprit, il n'y a pas de... La grande affaire, nous l'avons pour toujours, la grande affaire, c'est de ne pas l'attrister, le contrister. Quand nous l'attristons, et des chrétiens ont pensé, peut-être même des frères, que quand ils attristent le Saint-Esprit s'en va, il ne s'en va jamais. Ou c'est qu'il n'a jamais venu. Une fois qu'il a scellé une personne, il est là, il y est pour toujours. Hein. Cette personne est scellée pour toujours. La façon dont le Saint-Esprit, ayant scellé la personne, la façon dont il peut agir, varie avec l'état moral de la personne. Et alors, l'office, le service de l'onction, l'activité du service du Saint-Esprit en tant que du Saint-Esprit comme l'onction peut être fortement gênée et même pratiquement disparaître. Mais ne compliquons pas les choses, c'est très simple. Un chrétien, c'est quelque chose de très simple. C'est quelqu'un qui a la vie divine, et il l'a reçu par l'Esprit Saint, par la foi. Et la foi, c'est simplement l'opération du Saint-Esprit en l'homme. N'oublions jamais que le Saint-Esprit est l'agent en toutes choses. C'est la source de toute action de Dieu vis-à-vis de l'homme et dans l'homme, et par l'homme. Mais une fois qu'un homme est un chrétien, il est pour toujours. Il est scellé pour toujours. On peut dire qu'il est oint pour toujours. Seulement, cette onction, encore une fois, il peut ne pas la manifester du tout. Si la chair l'emporte, il est évident que cet homme peut paraître comme n'étant pas un chrétien alors qu'il l'est. S'il l'a été une fois, il l'est pour toujours. Et ce que nous avons, ce à quoi nous avons éveillé, les arts de l'esprit est quelque chose qu'il ne faut pas, sur lequel il ne faut pas se méprendre. Les arts de l'esprit, c'est pas ce n'est pas une partie de l'esprit donnée à l'avance. Non, c'est l'esprit qui est les arts, n'est-ce pas, c'est ce qui nous est donné. On reçoit le Saint-Esprit entièrement, comme en une fois.
C'est toujours le même esprit.
Oui.
Et qui est là depuis la Pentecôte.
C'est ça.
Il est dans chaque croyant amené à la conscience de son salut assuré en Christ. Mais c'est toujours la même personne. Et ceci semble répondre à la question de notre frère Convert, c'est que le Saint-Esprit venu ici-bas, baptisant, n'est-ce pas, Dieu ou le Seigneur baptisant par lui les apôtres, noyaux de l'Église, le Saint-Esprit demeure. Et chaque croyant, à mesure qu'il entre dans ce domaine nouveau, reçoit, se trouve sous l'effet de ce baptême du Saint-Esprit, avec ses différents effets, onction, sceau, art. Et, comme il vient d'être dit, je crois qu'il vaut la peine d'y insister, c'est une personne qui vient habiter dans le croyant dès l'instant qu'il est scellé, qui vient y habiter, non pas seulement qui y a opéré, comme cela a eu lieu jusqu'alors. Il a fallu la repentance, il a fallu la nouvelle naissance, là. C'est bien fait l'effet de l'eau et de l'esprit. Mais à un moment, l'âme peut se réjouir dans le Seigneur. Elle peut dire, oh, mais il n'est pas seulement le sauveur d'une manière générale, dont je ne pourrais pas m'approprier la vertu parce que je suis ceci, je suis cela, je suis trop mauvais, je suis trop mauvaise. Que d'âme! Et peut-être bien tous les croyants ici ont passé par des expériences semblables, doutant de l'amour de Dieu parce que, et de l'amour du Seigneur, parce qu'on cherche de l'amour pour lui dans nos cœurs. Il n'y en a pas, n'en trouverait pas. Il faut qu'il soit produit par l'amour de Dieu. Et alors, à un moment, on dit, mais Et c'est pour moi qu'il est mort. Mais c'est pour moi qu'il est ressuscité. Mais mes péchés, ils ont trouvé leur sanction là. Est-ce que les choses ne changent pas de couleur à ce moment-là? Est-ce qu'on ne voit pas le monde autrement? Est-ce qu'on n'a pas les yeux loin du Saint-Collyre dès ce moment-là? C'est vraiment l'onction, et c'est le saut en même temps. Mais alors, autre chose sur laquelle il est bon d'attirer l'attention, le Saint-Esprit n'est pas proprement nommé ici, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas ne pas... il est donné à propos des arts, n'est-ce pas? Mais pas proprement de loin de l'onction et du sceau. Mais dans les Éphésiens, les deux autres passages, les deux seuls, où nous trouvons le sceau du Saint-Esprit nommé et de façon effective, alors il n'y a pas d'erreur possible. Ces passages sont, premier chapitre, l'Épître aux Éphésiens, verset 13, le Christ, en qui aussi vous avez espéré, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Voilà ce qui a été entendu, l'évangile de votre salut, auquel aussi ayant cru. Voilà à quoi vous avez cru, non pas d'une manière générale en Jésus, Fils de Dieu, non pas seulement quand d'une manière générale à votre état de perdition, mais au fait qu'il y a un évangile du salut qui vous est présenté, que vous acceptez pour vous-même. Vous croyez non seulement à la divinité, la parfaite humanité de Jésus et à l'inspiration d'Écriture, mais au fait que une œuvre a été accomplie par laquelle maintenant vous avez le salut. Alors, auquel aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse qui les a en notre héritage. Ensuite, vous avez, un peu plus loin, dans la même épître, au chapitre 4 et au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour la rédemption. Alors, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est sur ceci, c'est que le Saint-Esprit vient habiter dans le croyant. Il y est plus ou moins à l'aise, cela vient de nous être dit. Et il peut être tellement attristé que son action soit éteinte. Et s'il en est ainsi, et s'il n'y a aucune manifestation de l'Esprit Dieu dans un croyant, on peut se demander si véritablement il a jamais eu la foi. Mais ne perdons pas courage, nous qui avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui avons pu dire, et nous avons été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous glorifions dans l'espérance et la gloire de Dieu, et toutes les magnifiques déclaration du début du chapitre 5 des Romains. Pour les mieux comprendre et les apprécier, aussi bien que pour être délivré du péché, il faudra les exercices de l'affranchissement. C'est encore autre chose. Mais dès que vous vous reposez sur l'œuvre de Christ, eh bien, le Saint-Esprit est là en vous pour vous dire ces choses, pour vous les apprendre, pour vous les confirmer. Et c'est à nous à nous abandonner à son action, à le laisser agir, à ne pas l'attrister. Mais, il y aurait ce danger, n'est-ce pas, d'identifier l'esprit avec nous-mêmes, avec le nouvel homme. Ce n'est pas la même chose. Ou l'identifier avec la vie qui est là en nous. Il est bien la puissance de cette vie, c'est l'esprit de vie. Et tout cela est extrêmement précieux, important. Mais c'est une personne distincte. C'est une personne divine. Et si le Saint-Esprit c'était l'équivalent du nouvel homme, nous serions Dieu. Et il n'est pas question de cela. mais c'est Dieu en nous. Oh, quel sentiment à la fois de, je dirais, d'émerveillement et de sainte crainte cela peut produire en nous.
Cette distinction entre l'Esprit de Dieu en nous et notre propre esprit renouvelé, nous la trouvons en particulier dans ce verset de Romains 8. L'Esprit rend témoignage, l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit en nous, et puis notre esprit nous-mêmes, je pense qu'il y a là les deux, n'est-ce pas, rend témoignage avec notre esprit, les deux, le témoignage de l'Esprit est là en nous, et notre esprit reçoit ce témoignage et s'y accorde. En ce qui concerne l'onction, elle est liée spécialement, semble-t-il, à la notion de puissance. Quand il est question de l'onction de Jésus au Jourdain, nous voyons dans Acte 10 qu'il a été oint par Dieu, là, de l'Esprit Saint et de puissance. Dans Luc, nous trouvons que aussitôt après cette scène du Jourdain, il va dans la puissance de l'Esprit. Une, comme on l'a dit, donc cette onction correspond à une capacité conférée. La présence de l'Esprit en nous nous confère une capacité, capacité pour une activité selon Dieu, ou, selon ce qu'on a vu dans Jean, pour une connaissance, une entrée dans la vérité divine. Le sceau, on a bien dit, marque la possession. Dieu marque les siens par cet esprit qu'il place en eux, ils sont à moi. Il est à remarquer que les deux citations que nous avons trouvées dans les Éphésiens nous parlent de l'esprit de la promesse et du fait que nous sommes scellés pour le jour de la rédemption. Comme si Dieu voulait dire, eh bien, cet homme, déjà sur la terre, je le marque à moi pour tout ce que j'ai en vue pour lui dans un avenir glorieux. Et de cet avenir glorieux, l'Esprit nous en donne déjà les avant-goûts. Nous entrons déjà dans la possession d'une partie de l'héritage. Quelque chose nous est donné à l'avance comme part présente de ce qui sera notre part éternelle par l'Esprit, ce sont les arts. Qu'on m'excuse d'être revenu pour rassembler simplement ces trois côtés.
Donc, scellé, nous le trouvons dans les trois passages qui ont été indiqués. Celui qui est ici, Éphésiens 1 et Éphésiens 4. Les arts, il en est question ici, il en est question dans le passage des Éphésiens dont on a parlé, scellé du Saint-Esprit de la promesse qui est les arts de notre héritage, et il en est parlé au chapitre 5 de cette même seconde épître aux Corinthiens, verset 5, en rapport avec la transformation de nos corps, car aussi nous qui sommes dans l'attente, nous gémissons étant chargés, et non pas que nous désirions d'être dépouillés, mais nous désirons d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Or, celui qui nous a formés à cela même, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de l'Esprit. Cela parle d'une pleine assurance de la chose. La chose aura lieu. Les arts sanctionnent la validité d'un marché, n'est-ce pas, donne l'assurance que le contrat sera tenue. Combien plus il s'agit de Dieu faisant une promesse, et par conséquent, il y a, et en même temps, pour la foi, une anticipation de la bénédiction qui sera la nôtre lorsque la promesse sera accomplie.
Un acompte sur la gloire.
Le rôle du Saint-Esprit est d'une importance extrême et le sujet n'est pas si facile que cela. Nous avons des traités à cet égard et il est bon que chacun les examine, les lise. Mais nous connaissons les choses de Dieu quand c'est par le Saint-Esprit seul. Nous ne pouvons pas analyser cette la présence et l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas notre affaire. Nous en éprouvons les effets. Et pour l'onction, c'est un fait d'observation assez courante que d'entendre un frère parler une fois avec plus d'onction qu'une autre fois. Et disant les mêmes choses. Ce qu'il dit est marqué par une action de l'Esprit plus manifeste une fois que l'autre. Ou bien il peut très bien une fois dire les choses justes sans que l'esprit y soit. Il perd son temps. Et il est en mauvais état et il a à revenir en arrière. Nous avons à traiter avec le plus grand honneur l'hôte. L'hôte, nous l'avons pour toujours. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Aller expliquer, analyser tout cela dépasse notre compétence. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. La grande affaire, c'est que ce Saint-Esprit ne soit pas contristé. Et quand il est contristé, surtout fortement, nous le savons fort bien. Nous le savons fort bien. Et la cause en est toujours de notre côté. Quand nous en sommes là, que notre joie avec le Seigneur est moins pure, est moins réelle, moins puissante, eh bien, c'est que nous avons à faire un examen de nos voies. Peut-être notre marche est correcte, mais notre cœur peut être gouverné par une idole, même qu'on ignore. Saint-Esprit est extrêmement sensible à tout. Et il est le secret de la puissance, de l'intelligence, de tout ce qu'on veut. Il est le secret de tout. Ou pourrions dire, sans nous tromper, qu'un chrétien ne peut rien faire et ne doit rien faire sans que le Saint-Esprit le fasse en lui, lui fasse faire. Nous habituons trop à nous passer de sa présence sentie trop facilement, et dans les réunions. Et dans les réunions. C'est bien là qu'on voit de quelle manière l'onction du Saint-Esprit est goûtée et manifestée ou pas. C'est facile de chanter un cantique. Un incrédule peut le faire, il le fait. Mais le chanter avec onction, c'est une autre affaire. Et encore un mot, le Saint-Esprit, l'unité des saints est par l'Esprit, et uniquement par lui. Nous sommes unis en un seul corps par le Saint-Esprit. L'unité n'est pas par la foi, elle n'est pas par l'amour, elle est par l'Esprit. Évidemment, l'amour unit les saints, mais c'est d'une manière pratique. Mais l'unité vitale, elle n'est que par le Saint-Esprit. Un seul corps, par un seul Esprit. On voit souvent dans des lettres de recommandation, dans l'amour qui nous unit. C'est vrai. C'est vrai quant aux relations fraternelles, mais ce n'est pas vrai fondamentalement. S'il n'y avait que notre amour entre nous qui nous unisse, eh bien l'unité ne durerait pas longtemps. L'unité est maintenue par la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Et le Saint-Esprit est présent dans tous les croyants, tous les vrais chrétiens, dans les milieux catholiques et partout, où que ce soit, partout où il y a de vrais chrétiens, le Saint-Esprit est en eux. Et c'est lui qui entretient cette unité merveilleuse, qui évidemment, aujourd'hui, il n'est guère visible, mais le Seigneur la voit, Dieu la voit. Le chrétien, par la foi aussi, s'en rend compte. C'est ce qui fait que, par l'Esprit, nous embrassons tous les saints quand nous pensons à l'Église, et quand nous rompons le pain en particulier.
C'est ce que nous voyons dans Psaume 133. Hein? Là, nous avons des saints qui habitent unis ensemble. ce n'est pas un effet de la chair ni de l'affection naturelle, mais c'est l'effet du Saint-Esprit qui a pour but d'unir les saints. Et c'est une grande chose que d'être unis véritablement comme membres de l'Assemblée de Dieu. Il ne peut qu'en résulter une grande bénédiction. Alors ensuite, nous trouvons l'huile précieuse. Elle est répandue, elle vient d'Aaron. Elle coule sur sa barbe, elle descend jusque sur les bords de ses vêtements. Ainsi, cette puissance du Saint-Esprit découle du fait que les saints sont unis ensemble et il y a donc un témoignage qui est rendu extérieurement, et c'est là ce qui est beau, et c'est là ce que nous devrions rechercher. Mais il faut que ce soit le Saint-Esprit qui produise ces effets.
Pardon ? Et pour cela, ne l'embarrassons pas, ne le gênons pas. Ayons affaire à Dieu dans notre vie, chacun pour son compte. Et là, le frère qui ne dit rien, ou les sœurs qui n'ont rien à dire dans les assemblées, peuvent, au même titre que les autres, gêner le Saint-Esprit et empêcher que la communion ait lieu et que l'on sente la puissance de l'onction du Saint-Esprit dans les saints au milieu d'eux. Et si nous poussions encore plus loin, nous verrions que la vie de tous les chrétiens individuellement, comme de tous les chrétiens ensemble, dépend de l'état intérieur de chacun d'eux. Le reste, ça n'est rien. Le reste, ce sont des effets. Ce sont des actes ou des paroles. Mais cela, c'est un effet. Nous prenons souvent les faits pour la cause. Souvent. Et nous pouvons rappeler encore la parole d'un de nos bons, excellents devanciers, n'est-ce pas ? Si notre cantique n'est pas chanté par l'esprit, c'est-à-dire de cœur par l'esprit, il devient une chanson. Eh bien, cette parole nous paraissait dure autrefois à un moment donné. Nous, en avançant, nous nous rendons compte que cette apparente dureté exprime une vérité extrêmement juste et humiliante. Un cantique chanté non par l'esprit n'est aux yeux de Dieu qu'une chanson. Les considérations qui sont les faits qui sont placés devant nous, les développements et les actes d'un serviteur qui n'a pas eu son égal ne nous sont pas donnés pour que nous n'en retirions pas un profit à la gloire de Dieu et à la gloire de Christ. Car le Saint-Esprit n'a comme objet que de glorifier et le Père et le Fils. Oui, cela. Ce n'est pas pour notre gloire. Notre gloire, Dieu nous apprenne à la fouler aux pieds. Mais c'est avec... en ayant affaire au Seigneur, que nous le ferons, cela se fera tout seul d'ailleurs. C'est quelque chose de merveilleux qu'un chrétien dans le monde. Un chrétien, un enfant de 10 ans converti, cédé. C'est un fait merveilleux. C'est un joyau pour Dieu, cela. Et c'est une gloire, on peut dire, et pour le Père et pour le Fils. Surtout si l'état est bon et maintenu bon. C'est ce que nous avons à faire. Mais en tout cas, un traité un peu difficile, opération sur l'Esprit de Dieu, mais il y en a d'autres. Voilà une chose que l'on peut conseiller à chacun, une étude que l'on peut conseiller à chacun. Et il ne s'assimilera pas le sujet en une fois, mais c'est fondamental.
Je me permets d'appuyer ce qui vient d'être dit. Et quant au traité qui vient d'être mentionné, lequel a été épuisé un temps, et il va être, je pense, réimprimé bientôt. C'est l'un des tout premiers traités écrits par Eugène Darby, dans les premiers temps, tout premier temps du témoignage, un des tout premiers, les opérations d'Esprit de Dieu. Il a été traduit à l'époque, il a été, on peut dire, le pain de toute une génération. Il nous apparaît aujourd'hui, et c'est un des côtés qui nous fait réaliser ce que nous appelons avec raison le déclin, il nous apparaît comme difficile à lire. Et ce n'est pas seulement une question de langage qui a changé, c'est certainement une question de changement de lecteur. Mais il va être réimprimé. On demande à Dieu qu'il ait des effets bénis. Il faut un peu d'effort pour lire certains passages, mais l'ensemble est d'une richesse qui est vraiment celle de l'esprit. Alors, à propos de cette unité de l'esprit, n'oublions pas l'exhortation fondamentale, initiale, du chapitre 4 des Éphésiens. Gardez l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Gardez l'unité de l'esprit. Il n'est pas dit faites l'unité, elle est faite, car nous sommes baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Il y a un seul esprit, cela nous est dit aussitôt après. Mais nous avons à garder cette unité et la garder d'une manière pratique. Et comment la garderons-nous? Dans la mesure où chacun de ceux qui sont appelés à la garder sera spirituel. L'apôtre ici en donne une démonstration remarquable, à l'égard précisément des Corinthiens. Il vient de dire, celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, c'est Dieu. Et c'est Dieu, par son esprit en nous, mais Dieu dans sa plénitude, dominant toute chose. Et alors l'apôtre, dans ce qu'il va dire aux Corinthiens, va parler comme apôtre, sans doute. Et il va, surtout dans les chapitres qui suivent, mettre en évidence son ministère. Il aura à le faire. Mais avec quelle douceur, patience, en même temps que fermeté, il va parler à ses Corinthiens. Dans quelle et avec quelle onction de l'esprit. Quand il leur dit, moi j'appelle Dieu à témoin sur mon âme, que ça a été pour vous épargner, que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous coopérons à votre joie, car c'est par la foi que vous êtes debout. Il avait toute autorité comme apôtre. Il aurait pu imposer certaines choses. Et s'il s'agit du cas particulier dont avait eu à s'occuper cette assemblée, c'est-à-dire l'exclusion de l'homme qui avait commis une infamie, eh bien, il avait dit, mon esprit, j'avais décidé dans mon esprit de livrer cet homme à Satan. Il avait le droit, il avait le pouvoir, par l'esprit, de le faire. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et il a attendu que l'assemblée, humiliée, exercée, dans la tristesse, mais reconnaissant les droits du Seigneur, opère, agisse, de sorte que maintenant, il va pouvoir appeler ses Corinthiens à se réjouir, et se réjouir non plus seulement en n'ayant ôté le mal, ce n'était pas un sujet de joie, mais d'humiliation, un sujet de tristesse, mais de se réjouir maintenant en pardonnant à celui qui a été attristé, à celui qui a dû juger son péché et qui peut être restauré. Alors il va les exhorter à ratifier leur amour envers lui, en le réintégrant, de telle manière que il puisse être joyeux en Christ, dans le Christ. Et lui, l'apôtre, à l'avance, se réjouit avec eux. Il n'a pas voulu aller avec eux. Il n'a pas voulu dominer sur leur foi. Non pas que nous dominions sur votre foi. la foi, c'est une question individuelle. C'est une question entre l'âme et Dieu. Et elle peut bien être exhortée, stimulée, elle est appelée à être enseignée, mais elle est une affaire de rapport avec Dieu. Il ne s'agit pas, même pour un apôtre, de dominer sur une foi dans le sens de peser sur un esprit d'homme avec un esprit d'homme. Mais dans l'esprit de Dieu, laisser agir cet esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il peut dire, je vous ai épargné en n'allant pas à Corinthe. Si j'y étais allé, ça aurait été pour manier la verge. Non, ce n'est pas par contrainte que vous êtes debout. Ce n'est pas en obéissant même à un apôtre, comme vous obéiriez à Moïse, comme vous obéiriez à une loi contraignante, que vous serez debout. C'est par la foi. Et on voit ainsi l'apôtre s'effaçant ainsi pour que l'Esprit de Dieu agisse en ceux qui sont unis en un avec Christ et en Christ.
N'est pas par contrainte, mais c'est l'amour qui doit commander dans toutes les activités de la foi, et tout particulièrement ici vis-à-vis de ces Corinthiens. Ils avaient besoin d'être amenés à ratifier leur amour envers le coupable, puisque déjà Paul lui-même avait reconnu qu'il y avait eu une vraie repentance. Et Paul, qui était un apôtre, aurait pu certainement intervenir par les grands moyens. Il aurait pu livrer cet homme à la destruction du corps, mais son âme sauvée dans la journée de Jésus-Christ, c'était ce qui était accordé à l'autorité apostolique. Aujourd'hui, de tels dons n'existent plus du moment qu'il n'y a plus d'apôtres, mais il y a le Seigneur qui juge dans son assemblée et au milieu de ses saints. C'est lui-même qui accomplit ce travail, de sorte que ceux qui se livrent au mal et au péché auront affaire certainement un jour avec le Seigneur directement, même si l'assemblée n'exerce pas la discipline comme cela devrait être. Mais en tout cas, il faut que cette restauration soit pleinement reconnue. C'est l'amour véritable qui doit pousser les croyants à exercer la discipline, mais aussi à ratifier leur amour envers le coupable lorsqu'il y a une vraie repentance.
Ne parle pas seulement de partager leur joie. Ne parle pas seulement de s'associer à leur joie. Il est dit de coopérer à votre joie. C'est-à-dire de m'employer à ce que vous ayez cette joie. D'être l'instrument de Dieu pour qu'il y ait cette joie qui est la joie de l'Esprit. Car si l'esprit est attristé, hélas, si souvent, l'esprit est aussi un esprit qui se réjouit. Les Thessaloniciens avaient reçu la parole, accompagnée de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Eh bien, que nous ayons à cœur de coopérer à la joie de nos frères, dans la reconnaissance de tous les droits du Seigneur, dans l'obéissance à sa volonté et dans la jouissance de commune de son amour. Celui qui nous lie fermement avec vous à Christ, c'est Dieu.
Puisqu'il dit plus loin, même si vous aimant beaucoup plus, je vais être moins aimé. C'est peut-être plutôt rare, cela, de nos jours, à chacun de recevoir cette parole. Il avait les mêmes passions que nous. Ce n'était pas un ange, Paul. Il avait les mêmes passions que nous. Mais il avait un secret. Secret. C'est qu'il veillait à ce que Christ reste dans son cœur. Et il avait donc ce bonheur qui permettrait à un chrétien, aujourd'hui comme alors, d'être supérieur à tout. Le bonheur que Dieu donne peut rendre un homme supérieur à tout. Il a pu se manifester quand on a mis des chrétiens à mort dans tous les temps et qui chantaient d'un cœur sincère pendant le supplice. Est-ce que il serait plus difficile pour nous de chercher à conserver ce bonheur dans nos âmes? Bonheur que Dieu donne, que le Seigneur donne, que l'Esprit, par conséquent, dont il peut remplir notre cœur, c'est une affaire individuelle. Mais le christianisme est difficile à vivre sans cela.